Caraïbes.
Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back.
Il y a 30 ans, alors qu'Elvis Presley chantait, le monde anesthésié ne voyait pas se rapprocher la Troisième Guerre mondiale. Les choses s'envenimaient au Vietnam, l'Afrique noire bougeait, la terreur régnait en Algérie, mais c'était des Caraïbes que venait le danger. Pour comprendre l'aboutissement de cette situation, il faut survoler rapidement l'histoire de cette région du monde à la fin du siècle dernier. Dix décembre 1898. Par le traité de Paris, l'Espagne renonce à l'île de Cuba qui devient indépendante et recouvre sa liberté après 4 siècles d'occupation espagnole. Mai 1925. Gerardo Machado est élu à la tête de l'État cubain et assure les banques américaines que rien n'entravera leur activité sur l'île. Octobre 1933. Un putsch contre Machado est dirigé par un sergent sténographe, Batista. Janvier 1959, les rebelles cubains dirigés par Fidel Castro contraignent le dictateur Batista à la fuite. Le nouvel homme fort de l'île affirme que les intérêts américains à Cuba n'en souffriront pas. Et à ce moment-là, Fidel Castro est de bonne foi, Vincent Touze.
Le programme de Castro, c'est un programme d'indépendance. Alors, il est manifeste que dès le départ, il veut reprendre le contrôle de l'économie cubaine. Il est clair aussi qu'il a parmi ses conseillers des communistes, dont évidemment Che Guevara, Carlos Franqui et son frère Raúl Castro. Mais il n'a pas, à proprement parler, un programme communiste ou socialiste. C'est un homme qui veut faire de Cuba une nation vraiment indépendante et il veut en terminer avec la politique de protectorat ou de quasi-protectorat américain.
Fidel Castro nationalise les terres. Les gros propriétaires se voient confisquer leurs domaines. Les intérêts américains à Cuba sont compromis.
Quand Castro a commencé à s'attaquer aux entreprises américaines à Cuba, il y a eu une vive réaction d'Eisenhower. Et il a été donc décidé de ne plus acheter le sucre de Cuba. La politique d'isolement économique de Cuba par les États-Unis a précipité, je dirais, Castro dans les bras du bloc soviétique.
D'isolation, mais de passivité aussi, parce qu'on lâche un peu la bride.
Bien, il est certain que c'est très passif comme politique, dans la mesure où rien n'est fait de par ailleurs pour essayer de récupérer Cuba.
Octobre 1960. Coup d'éclat de Nikita Khrouchtchev à l'ONU. Au président de l'Assemblée qui réclame le silence à petits coups de maillet répétés, Khrouchtchev répond en se déchaussant et en frappant sur le pupitre avec sa chaussure. La guerre froide entre les deux grands ne se réchauffe pas. 9 novembre 1960. John Kennedy est élu président des États-Unis. Avril 1961, le major Youri Gagarin devient le premier homme de l'espace. À 327 km d'altitude, il nous livre ses impressions. L'URSS marque son avance sur les États-Unis dans le domaine spatial. Avril 1961. La ligne pro-soviétique suivie par Fidel Castro vient de conduire le gouvernement Kennedy à une aventure catastrophique par ses répercussions diplomatiques. Une force d'exilés cubains entraînés aux États-Unis a tenté de débarquer dans la baie des Cochons. Les services de renseignement américains avaient prévu un soulèvement anticastriste, mais c'est le contraire qui s'est produit. Cette opération menée par la CIA était un échec complet. Pourquoi Vincent Touze ?
Ah, ils n'avaient absolument rien mis au point. D'abord, ils ont débarqué sur une plage de corail. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais le corail est extrêmement coupant. Donc, les malheureux qui ont débarqué se sont blessés, donc étaient quasiment incapables de marcher. La plage était extrêmement éloignée de l'endroit où on espérait qu'ils pourraient s'implanter et pourraient éventuellement prendre le maquis. Donc, enfin, c'était une opération menée de façon incroyablement mauvaise. Non, on est vraiment surpris que la CIA, que le Pentagone n'aient pas vu les faiblesses de cette opération. L'effet, d'abord, à Cuba, c'est une incroyable popularité de Castro, qui était déjà très populaire. Bon, dès que l'opération est déclenchée, il va quasiment... Enfin, c'est lui qui prend en tête le commandement et qui dirige les opérations, donc sur le front. On peut dire aussi que cette opération est pour Castro le prétexte à faire l'arrestation de tous les suspects anticastristes à Cuba, donc des milliers de prisonniers de suspects, et puis toutes les forces anticastristes qui avaient débarqué et qui portent un très rude coup donc à l'opposition cubaine, qu'elle soit à Cuba ou aux États-Unis en Floride.
Cette opération ne fait évidemment qu'envenimer les relations entre les États-Unis et l'URSS. Khrouchtchev menace Kennedy d'une intervention directe à Cuba. Bien entendu, il faut absolument éviter l'affrontement des deux superpuissances. Kennedy décide alors d'agir indirectement. Il rompt les relations économiques avec Cuba et oblige Castro à ne plus compter que sur l'URSS pour écouler ses produits. Mais Khrouchtchev est prêt à payer le prix. Alors, le gouvernement Kennedy envisage une autre opération contre Cuba. Une opération qui est d'ailleurs restée secrète jusqu'en 1980. C'est l'opération Mangouste. De quoi s'agit-il ?
C'était une opération de grande envergure qui a été déclenchée à la suite de la baie des Cochons. Après cette affaire, le président Kennedy avait demandé un avis à une commission qui était dirigée par son conseiller militaire, général Maxwell Taylor. Dans cette commission siégeait le frère du président Kennedy, Robert Kennedy, le ministre de la Justice. Et cette commission devait donc définir un cadre pour les relations entre les États-Unis et Cuba. Et sa principale conclusion était qu'on ne pouvait envisager de relations à long terme avec le régime de Castro. D'où, fin 1961, le président Kennedy met en place donc une opération secrète, l'opération Mangouste, dont il confie l'exécution au colonel Lonsdale, qui est donc un personnage haut en couleur, très réputé pour son efficacité, et qui donc met en place cette opération Mangouste. Le but de l'opération Mangouste, tel que le définit le président américain, et qui apparaît dans des documents officiels, c'est aider Cuba à renverser Castro. Premier abord, il n'est pas question de faire intervenir les forces américaines, Mais il faut recruter des agents à Cuba, faire des actions de sabotage et déstabiliser le régime cubain de l'intérieur. Alors cette opération n'avait pas donné à la mi-62 beaucoup de résultats. Mais manifestement, les Kennedy, eux, étaient bien déçus des résultats mitigés de l'opération, puisqu'on les voit souvent au cours de réunions se plaindre que la CIA n'en fait pas assez. Et il y a notamment au cours d'une réunion début 62, le président déclare qu'il souhaite une politique plus active de la CIA et déclare textuellement « Le dernier chapitre de l'affaire cubaine n'a pas encore été écrit et il doit l'être ». On peut citer notamment un document du 20 février 1962 qui est signé du colonel Lansdale et qui prévoit un plan en 6 phases pour l'évolution de l'opération Mangouste, et ce plan devait déboucher sur une invasion des forces militaires américaines à Cuba en octobre 1962. Alors là, il y a beaucoup d'historiens américains qui disent « mais alors ce document est bien la preuve que Kennedy envisageait une invasion directe de Cuba ». Mais les documents semblent établir qu'en fait Kennedy a refusé en fait ce plan. Et on ne sait pas très bien s'il l'a refusé parce qu'il considérait que c'était trop tôt ou s'il était opposé à une utilisation des forces américaines. Et il est clair aussi, d'après tous les témoignages qu'on a, que les Kennedy faisaient quasiment de Fidel Castro un cas personnel, qu'ils avaient une sensibilité très particulière aux problèmes cubains.
Les Américains avaient préparé cette opération Mangouste, mais ils avaient aussi préparé l'assassinat de Castro.
Alors là, il est établi qu'il y a eu des tentatives d'assassinat de Fidel Castro. On ne sait pas très bien quelle est la part de responsabilité des Kennedy là-dedans. Ces tentatives d'assassinat ont notamment été organisées avec la complicité de la mafia, qui a été recrutée par la CIA donc pour mettre au point ces tentatives. Oui, le colonel Lansdale lui-même avait, dans un document, mis par écrit que l'assassinat de Castro était une hypothèse de travail du groupe spécial. Alors bien évidemment, les responsables américains disent « on en a parlé » pour dire que bien évidemment, jamais il ne serait question d'employer de tels moyens. Ceci dit, il est largement permis d'en douter. Et il semblerait même que McNamara aurait peut-être suggéré que l'assassinat de Castro était une possibilité au cours d'une réunion et que John McCone, le chef de la CIA, soit intervenu à ce moment-là pour dire qu'à son avis, il ne fallait pas parler de ce genre de choses et qu'il était hors de question d'employer de tels moyens. Suite à quoi, McNamara aurait dit au cours de cette réunion qu'il était d'accord avec le chef de la CIA. Enfin, toujours est-il qu'il est clair que les hauts responsables américains ont parlé d'assassiner Castro.
Septembre 1962. Les livraisons constantes d'armes soviétiques à Cuba inquiètent Washington. Le président Kennedy se voit contraint d'adresser une sévère mise en garde à Castro. En guise de réponse, Castro lance un appel à tous les pays d'Amérique latine et d'ailleurs pour s'opposer à l'hégémonie américaine. La situation empire lorsque Castro autorise les soviétiques à construire une base navale à Cuba pour leur flotte de pêche dans l'Atlantique. Les États-Unis se sentent directement menacés. Ils se souviennent alors de la doctrine Monroe établie en 1823. Toute action de Cuba contre les États-Unis devra être empêchée par les moyens appropriés. Le monde tremble. La Troisième Guerre mondiale peut éclater d'un moment à l'autre dans les Caraïbes. Les photos aériennes montrent clairement l'arsenal militaire soviétique envoyé à Cuba. Des cargos chargés d'armes offensives, de chasseurs à réaction et de lance-missiles. Voici maintenant un document étonnant et absolument inédit, obligeamment prêté par Vincent Touze. Ce document, top secret, n'a été déclassé qu'il y a très peu de temps. Il s'agit d'un enregistrement clandestin d'une conversation dans le bureau du président Kennedy. Un micro enregistrait toutes les conversations à l'insu des visiteurs. Ces conversations n'avaient pas tout un intérêt majeur, mais celle-ci est une pièce d'archive historique. La technique est évidemment celle du micro caché, mais la conversation est quand même audible. Le 16 octobre 1962, à 6h30 du matin, Kennedy apprend que les bases de lancement sont en place à Cuba et les fusées pointées sur la Floride. Il réunit aussitôt ses principaux conseillers. Voici un écho de cette conversation secrète. McNamara. Nous n'avons pas localisé de dépôt nucléaire avec certitude. C'est important pour déterminer si ces missiles sont prêts à l'emploi. Il est inconcevable que les Soviétiques installent des têtes nucléaires sur un terrain non fortifié. Il doit y avoir un dépôt quelque part. Notre objectif est de le trouver. McNamara. Il est possible que les têtes nucléaires de ces lanceurs ne soient pas encore sur le sol cubain. Bundy. C'est peut-être du bluff, mais ça ne les rend pas moins offensifs. Nous ne pouvons pas en avoir la preuve. Non, mais cela implique une stratégie différente. Général Taylor. Le plus important, Monsieur le Président, c'est d'opérer le bombardement avec le bénéfice de la surprise. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les missiles soient au sol dans une position qui nous permettrait de les détruire. John Kennedy. Prévenir nos alliés, c'est prévenir tout le monde. On ne peut pas annoncer que dans 4 jours, nous allons les détruire. Les Soviétiques pourraient répliquer que si nous les attaquons, ils vont tirer. Alors on ne pourrait plus les détruire. Mais s'ils font ça, alors nous utiliserons les armes nucléaires. Pierre Salinger, le célèbre journaliste, ami personnel de Kennedy, était alors porte-parole de la Maison-Blanche. Il nous apporte des précisions sur cette importante réunion du 16 octobre.
Il y avait 3 positions qui étaient très importantes. Numéro 1, du côté militaire, il poussait pour une attaque immédiate. Une attaque aérienne pour essayer par des bombes d'avion de détruire ces missiles qui étaient en train d'être établis. Une deuxième théorie, et c'était la théorie de Adlai Stevenson, qui était l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies à l'époque, qui avait 2 fois essayé d'être président des États-Unis dans des élections de 52 et 56. Lui, il prenait complètement l'autre côté, qu'on ne devait faire rien. Il fallait les oublier, ils allaient pas faire des problèmes. Et on est finalement arrivé à une décision intermédiaire. Et c'est une décision qui a été présentée la première fois par le frère du président Kennedy, Robert Kennedy. Et ça, c'était l'idée de mettre la flotte américaine entre Cuba et les navires qui venaient de l'Union soviétique et qui amenaient plus de missiles. Pour faire une sorte de quarantaine de Cuba et d'arrêter l'arrivée de plus de missiles. Il y a aussi, dans cette position, de se mettre en négociation avec l'Union soviétique.
Qu'est-ce qui peut bien pousser les Cubains à tenter ce coup de poker avec tous les risques qu'il comporte? On ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est que, de la part des Soviétiques, l'installation de cet armement à Cuba est destinée à éprouver la volonté de résistance des Américains et aussi la personnalité de Kennedy que Khrouchtchev n'a pas l'air de prendre très au sérieux.
Khrouchtchev pensait que Kennedy était un jeune playboy sans envergure, un mou, inexpérimenté. Une opinion d'ailleurs qu'en 1961 avait été confortée par une conférence qui avait eu lieu entre les deux chefs d'État à Vienne en juin 1961, et où manifestement Khrouchtchev était revenu avec une idée pas très élevée du président américain. Et donc il était persuadé que Kennedy n'avait pas les reins solides pour répondre à un tel défi.
On peut aussi et surtout s'interroger sur l'intérêt de l'initiative soviétique. À votre avis, elle est motivée par quelle raison? C'est-à-dire, est-ce qu'on essaie d'éprouver la force, la puissance américaine? Est-ce qu'on veut modifier le rapport des forces des superpuissances? Quelles explications peut-on donner? Ou est-ce que c'est simplement du bluff?
Alors il y a plusieurs motivations dans la décision de Khrouchtchev. En fait, les bonnes raisons pour installer des missiles à Cuba ne manquaient pas. Tout d'abord, il y avait certainement la raison la plus importante. C'était le retard des soviétiques en matière de missiles nucléaires intercontinentaux. Donc à l'époque, les Américains avaient une large supériorité sur les soviétiques. Et d'après des études de la CIA, donc l'installation d'une vingtaine de missiles à moyenne portée et d'une quarantaine de missiles à portée intermédiaire à Cuba, augmentait la capacité de première frappe soviétique de 80%. Autre interprétation, c'est la défense de Cuba. Khrouchtchev était un homme, au contraire de Staline, qui souhaitait projeter la puissance soviétique à l'étranger. Et le triomphe de Castro à Cuba, il s'est assez rapidement intéressé à Castro. Et la question cubaine est certainement une affaire pour laquelle il y avait une sensibilité particulière. Et pour des questions de prestige. Et la perte de Cuba aurait certainement été pour lui quelque chose qu'il aurait ressenti assez gravement.
L'installation des missiles à Cuba a fait couler beaucoup d'encre. Qui a décidé? Sans doute Khrouchtchev. On a même prétendu que Castro n'était pas au courant des modalités de la date de l'installation des missiles dans son pays. Qu'en pensez-vous, Pierre Salinger?
Je pense que ça, c'est pas tout à fait crédible. Vous savez qu'après la baie des cochons, qui était un désastre pour les États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a appris? C'est que les services secrets, le KGB ou les Cubains, ont obtenu une partie de ces documents en 1961 ou 1962, début 62, qui ont convaincu les Soviétiques que les Américains allaient envahir Cuba en 62. Et ça, c'est la raison pour laquelle Khrouchtchev a déployé ses missiles. Et il a dit à Castro, quand il les a déployés, qu'il le faisait pour le protéger de la possibilité d'une attaque américaine. Alors, pour dire que Castro savait rien de ça, je pense que c'est impossible.
Il est maintenant prouvé que Khrouchtchev a déjà parlé de cette installation des fusées à Cuba dès avril 62. Mais il semble que tous les dirigeants soviétiques n'étaient pas d'accord. Vincent Touze.
Anastase Mikoyan a fait connaître une opinion radicalement contraire. Il trouvait que c'était très dangereux. Et déclarait notamment qu'installer des missiles à Cuba, non seulement ça n'empêcherait pas une invasion, mais ça la déclencherait, parce que les Américains n'accepteraient jamais des missiles nucléaires à Cuba. Il pensait aussi qu'il serait très difficile aux Soviétiques d'installer secrètement des missiles à Cuba et qu'ils seraient découverts tout de suite. Donc on a envoyé le maréchal Birouzov, qui était le commandant des forces nucléaires stratégiques soviétiques à Cuba, en mission secrète. Et il devait obtenir l'accord de Castro et vérifier si l'on pouvait installer secrètement des missiles à Cuba. Et il semblerait, d'après les témoignages soviétiques, que Castro a trouvé très bonne l'idée d'installer des missiles nucléaires à Cuba, quoi qu'il en dise aujourd'hui. Et donc Birouzov est revenu de Cuba avec l'accord, semble-t-il, enthousiaste de Castro.
Schlesinger, dans son interview du Nouvel Observateur, affirme qu'il n'y a pas eu de véritable consultation entre les Russes et les Cubains sur la date et les modalités de l'installation des missiles. que Castro aurait même appris cette information à la radio.
Alors ça paraît très surprenant, semble-t-il, d'après les témoignages qu'on avait. Donc d'abord, Castro a dit dès le départ qu'il était pour. Ce qui a permis au projet d'aboutir, c'est l'accord de Castro, d'après les témoignages soviétiques récents. Par ailleurs, il y a une visite de Raoul Castro à Moscou, début juillet 62, il semblerait que, d'après l'historien Roy Medvedev, que c'est au cours de ce voyage qu'on a mis très précisément les modalités de l'installation des missiles au point, et Khrouchtchev aurait personnellement participé aux négociations avec Raoul Castro. Donc ce que dit Castro aujourd'hui, donc de dire qu'il n'était pas au courant, ça semble assez marqué par le sceau des circonstances, puisque ma foi... Castro, qui est lâché par l'Union soviétique en ce moment, a certainement besoin d'avoir de bons rapports avec les États-Unis. C'est certainement pas le moment pour lui de dire qu'il a eu un rôle en flèche dans l'affaire de la crise des fusées.
Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. I have directed the continued and increased close surveillance of Cuba and its military buildup. Should these offensive military preparations continue, thus increasing the threat to the hemisphere,
22 octobre 1962. Kennedy fait connaître à la nation la situation dramatique. Le gouvernement américain doit prendre une décision rapide. Deux solutions apparaissent. Ou bien on ignore la menace, et c'est une victoire pour le bloc socialiste, ou bien on envahit Cuba et on détruit les bases. Mais Kennedy ne veut pas d'un nouveau Pearl Harbor. Il ne veut pas être le général Tojo des années 60. Finalement, on va donc adopter une solution médiane, le blocus de l'île, afin que les armes ne puissent plus arriver à destination. Les négociations avec l'URSS prennent donc une forme d'ultimatum. Tout envoi d'armes à Cuba sera intercepté. Octobre. Cuba saisit de l'affaire le Conseil de sécurité des Nations Unies et annonce la mobilisation dans son pays. De son côté, l'URSS prend très mal cet ultimatum américain.
Khrouchtchev, au début de la crise, confronté à l'ultimatum américain et au blocus des armes offensives soviétiques, a décidé d'ignorer ce blocus, et que les navires soviétiques transportant des fournitures militaires soviétiques à destination de Cuba, eh bien, ces navires forceraient le blocus américain. Et il considérait que c'était alors aux Américains de prendre la responsabilité d'ouvrir le feu. Dans une lettre donc, du 23 octobre envoyée au président américain, qui était donc une lettre secrète, qui a été déclassée aux États-Unis, il déclare au président américain, dans une lettre donc assez violente, et qui annonce de sa part que les soviétiques forceront le blocus. Essayez de vous mettre à notre place et imaginez comment les États-Unis réagiraient à ces conditions. Je suis convaincu que si quelqu'un avait tenté de dicter des conditions pareilles à vous, les USA, vous auriez rejeté une telle tentative, et nous disons aussi, trois petits points, non. Le gouvernement soviétique considère que la violation de la liberté de circulation dans les eaux internationales est un acte d'agression qui pousse l'humanité au bord de l'abysse d'une guerre nucléaire mondiale. Par conséquent, le gouvernement soviétique ne peut donner instruction aux capitaines des navires soviétiques à destination de Cuba d'observer les instructions des forces navales américaines qui font le blocus de l'île. Vos instructions aux marins soviétiques ne peuvent être que de se conformer aux règles de navigation dans les eaux internationales reconnues par tous, et non de renoncer à leurs bénéfices, ne serait-ce que d'un pouce. Et si le camp américain viole ces règles, il doit réaliser quelle responsabilité il supportera dans ce cas. Bien entendu, nous ne resterons pas les bras croisés devant les actions de piraterie des navires américains dans les hautes mers. Nous serons forcés de notre côté de prendre les mesures que nous jugerons nécessaires et adéquates pour protéger nos droits. Et pour cela, nous avons à notre disposition tout ce qui est nécessaire.